Il est 6h22. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter ce matin. Vous êtes co-auteur de La Corée du Nord en 100 questions aux éditions Taillandier. Et on va donc revenir avec vous sur cette rencontre historique en ce moment entre les deux Corées. Les représentants des deux pays se sont retrouvés tout à l'heure en zone démilitarisée. On a appris que Pyongyang devrait envoyer une délégation aux JO d'hiver le mois prochain en Corée du Sud. Ça faisait quand même 2 ans que ces deux pays ne s'étaient pas parlé. Est-ce que cette rencontre, Juliette Morillo, annonce le dégel ?
Alors, sur le plan des relations entre Pyongyang et Séoul, oui, ça annonce le dégel. En revanche, sur le fond réel des tensions, c'est-à-dire que la Corée du Nord est un pays nucléarisé, non, c'est simplement, on repousse, c'est un petit peu reculer pour mieux sauter, parce que le cœur du dossier, c'est d'accepter de reconnaître ou non la Corée du Nord comme puissance nucléaire. Et quelles que soient les relations manifestement améliorées entre Pyongyang et Séoul, le tout en dehors des États-Unis, les tensions avec Washington concernant la nucléarisation de la péninsule ne sont pas réglées. Donc ça, ce sera pour après.
Quel est l'intérêt en fait de Séoul alors de s'éloigner finalement de la ligne américaine et puis de jouer un peu comme les Chinois, le dialogue avec Pyongyang, c'est l'espoir que le sport fasse baisser les tensions militaires ?
Ah ben la diplomatie du sport a toujours fonctionné et il faut pas oublier quand même que la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce sont des frères, c'est un même peuple. Donc ils ont envie finalement, après toute une histoire, depuis la nuit des temps, la Corée du Nord n'a pas été maîtresse de son destin. Ils ont pour ça un proverbe: quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu. Les baleines, ce sont les puissances internationales, les grandes puissances. Et puis là, la fameuse DMZ, le 38e parallèle qui sépare les deux Corées, et une balafre qui remonte à la guerre froide, et montre bien finalement que les tensions, ça se passe d'un côté entre Séoul, sous influence américaine, et de l'autre côté, derrière Pyongyang, vous avez aussi la Chine. Donc les deux Corées veulent simplement, sont persuadées, je pense, intimement l'une comme l'autre, qu'il n'y a qu'un dialogue direct qui permettra de dénouer les tensions. À Pyongyang, on veut parler à Séoul sans les Américains, et à Séoul, l'actuel président Moon Jae-in est un ouvrier, est un fervent partisan de la politique de la main tendue, la Sunshine Policy, qui avait été initié en l'an 2000, donc de rapprochement des deux pays.
Donc quelque part, ça va quand même au-delà du sport.
Ça va largement au-delà du sport. Et si en effet, véritablement, vous avez une délégation nord-coréenne qui va au sud, et qui, comme l'a proposé la Corée du Sud, pourrait même traverser directement la frontière entre les deux pays, ce serait un symbole extraordinaire.
L'arsenal nucléaire nord-coréen, c'est quand même la vraie question sous-jacente, vous l'avez évoqué. Séoul propose des pourparlers militaires. Est-ce que ça peut donner quelque chose, vous croyez, Juliette Morillo ?
Si les Américains n'y participent pas, ça peut en effet apaiser les tensions. Mais il ne faut pas se leurrer. Séoul sait parfaitement que la Corée du Nord ne dénucléarisera pas. L'arme nucléaire en Corée du Nord est désormais inscrite depuis 2012 dans la Constitution. Donc elle fait partie de l'identité du pays et la Corée du Nord, qui se sent sous menace permanente américaine, en a besoin. En revanche, il peut tout à fait être question dans un premier temps, de ce fameux double moratoire qui verrait l'arrêt des manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes qui chaque 2-3 fois par an relance les tensions sur la péninsule. D'un côté, d'ailleurs, il n'y en aura pas pendant les Jeux Olympiques. Et de l'autre côté, probablement un ralentissement des essais de tirs de missiles balistiques nord-coréens. Mais sur le fond du problème, l'arme nucléaire, la Corée du Nord ne renoncera pas.
Oui, d'autant que la semaine dernière, quand même, on peut le rappeler, Kim Jong-un a appelé son pays à produire en masse têtes nucléaires, missiles balistiques. Certains experts parlent même de 3 mois avant que Pyongyang ne se dote d'un missile nucléaire capable de frapper Washington. Est-ce que c'est crédible ?
Oui, c'est crédible. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. La Corée du Nord procède à des essais nucléaires depuis 2006. Son programme nucléaire remonte au lendemain de la guerre de Corée, parce qu'elle avait été directement sous la menace américaine. Et ils ont fait des progrès exponentiels fabuleux dans le domaine balistique. C'est une question de mois. On l'a vu sous Kim Jong-un, depuis son arrivée au pouvoir fin 2011, à la mort de son père Kim Jong-il, il a procédé à plus plus d'essais de tir balistiques que son père et son grand-père réunis. Donc, mais encore une fois, la Corée du Nord ne menace pas. Ce qu'elle veut, c'est ne pas être détruite. Elle veut assurer sa propre survie et finalement dialoguer d'égal à égal avec Washington et d'égal à égal également, bien évidemment, avec la Corée du Sud.
Donc ce qui vient de se passer, pour vous, si on vous écoute bien, peut être une marque d'apaisement dans cette course à l'armement.
Oui, je pense que ça peut être une marque d'apaisement, mais c'est relativement superficiel. Par contre, ce qui pourrait arriver, quand on regarde le profil des deux négociateurs qui ont été choisis, Ri Sang-won et Cho Myung-gyun pour la Corée du Sud, ces deux négociateurs ont l'un et l'autre était très impliqué dans les relations économiques intercoréennes. Donc ce qui pourrait déboucher de ces discussions en dehors du plan militaire serait peut-être la réouverture de la zone de coopération économique de Kaesong qui se trouve entre les deux Corées, donc en Corée du Nord, et où vont travailler des Coréens du Sud. Je vous rappelle juste qu'elle a été fermée en début 2016 par la Corée du Sud à la suite d'un essai nord-coréen. Donc ça pourrait être en effet un premier pas vers une nouvelle ouverture économique et une collaboration directe entre les deux Corées.
Donc on suivra ça évidemment avec attention. Une rencontre sous l'impulsion de Kim Jong-un, qui avait tendu la main le jour des vœux en évoquant cette délégation nord-coréenne au JO. Derrière, est-ce qu'on peut imaginer, comme les Américains, que c'est un stratagème pour fragiliser l'alliance internationale autour de Séoul, ou encore que c'est même une façon de gagner du temps pour Kim Jong-un, toujours dans l'idée de poursuivre ce programme nucléaire?
Alors, gagner du temps, non. Le programme nucléaire est presque abouti, donc ça, j'y crois pas. En revanche, je pense que, comme l'avait dit d'ailleurs Trump, Kim Jong-un est un smart cookie, un petit malin. Les Nord-Coréens sont finalement assez fins diplomatiquement, parce qu'en effet, en s'adressant directement à la Corée du Sud, Kim Jong-un, en effet, marginalise presque les États-Unis. Donc c'est plutôt assez fin comme fonctionnement. Et en plus, il apparaît vis-à-vis de son peuple comme un pacificateur qui tend un rameau d'olivier aux frères sud-coréens.
Coup double pour lui. Juliette Morillo, c'est l'heure pour nous de vous remercier. Je rappelle que vous êtes journaliste, co-auteur avec Dorian Malovic de La Corée du Nord en sans question, édition Taillandier. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro France Inter. Bonne journée à vous. Nous, on poursuit notre 5-7 après le journal. On vous dresse la table ronde du petit déjeuner.